Vous écoutez
RMC.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre. Et le guet-apens du jour, messieurs dames, c'est ça.
Remember his name, Rafael Nadal.
We have a new champion.
Une autre victoire encore pour ce jeune prometteur, Rafa.
Absolutely brilliant.
Chapitre dans l'histoire incroyable du tennis.
22 Grand Slam titles.
C'est simplement imparable.
It's the end of an era.
Raphaël Nadal, tout jeune retraité, qui a évoqué son avenir dans une interview donnée à Arab News et The National. Il a été interrogé sur la possibilité de devenir entraîneur et a déclaré « Il ne faut jamais dire jamais ». Avant d'ajouter, il est trop tôt pour penser à ce genre de choses, j'ai juste besoin d'organiser ma vie. Pour l'instant, je ne me vois dans aucun projet de ce genre, mais je ne sais pas à quoi ressemblera ma vie dans 1, 2 ou 3 ans. Alors, cette question, à partir de là, les GG, est-ce qu'un grand champion fait forcément un grand entraîneur? Marc Madio.
Parfois.
Mario Bartoli.
Forcément, non, mais je pense que Rafa sera un très grand entraîneur.
Sarah Pitkowski.
Non, c'est pas systématique.
Ludovic Duchesne.
Ouais, tout pareil que Marion.
Tout pareil que Marion. Bah, on va l'écouter, Marion, justement. Après donc, cette nouvelle, Rafa, tu le vois comme un grand entraîneur?
Oui, absolument, parce qu'il a une passion du jeu. C'est un petit peu comme Pep Guardiola, même si je pense qu'il sera beaucoup moins excessif. Mais c'est quelqu'un qui a tellement poussé le curseur de l'investissement personnel au quotidien à son maximum pour sa carrière, qu'il arrivera à transmettre cela à la personne qu'il entraînera. Après, ce qui est très intéressant de voir, c'est s'il va finalement s'investir dans son académie qu'il a déjà, où il y a énormément de jeunes, pour justement être dans la formation d'un joueur qui a 12, 13, 14 ans et l'amener sur le circuit professionnel, qui a un travail complètement différent d'avoir que de prendre un joueur qui a déjà gagné ou qui est déjà sur le circuit et de l'amener encore plus haut. C'est vraiment deux travaux qui sont à l'opposé quasiment. Donc je pense qu'il va plus s'investir dans son académie qui est déjà immense, où il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de faire comme lui, de devenir un champion. Je pense que c'est ce qui le motive le plus, être à leur côté au quotidien. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va transmettre beaucoup de choses. Il l'a fait sur un terrain, de donner tellement à travers son jeu qu'il sera capable de donner la même chose et de donner tout son savoir et toute son énergie aux jeunes pépites qu'il a dans son académie.
Mais donc ça serait bien de le voir en tant qu'entraîneur, Sarah, ça te dirait aussi, j'imagine.
Oui, ça me dirait. En tout cas, il y a eu un phénomène de mode dans le tennis, je dirais que c'était plus des années 2010, où effectivement les meilleurs mondiaux ont petit à petit fait appel à d'anciens numéro 1. Je présume, parce que je n'ai pas été dans ce cas-là, que c'était pour des petits réglages. En tout cas, tu viens pas chercher un Edberg, un Becker, un Agassi pour changer ton coup droit, ton revers, ton service. Je pense que ces grands joueurs viennent chercher d'anciens grands joueurs pour partager des émotions, des sensations, peut-être des peurs ou des motivations qu'ils ont déjà ressenties, et voir comment on peut confronter les avis pour continuer à toujours avancer. C'est d'ailleurs le choix de Djokovic d'aller chercher Andy Murray. Il cherche peut-être un nouveau souffle. Et après, il y a un autre métier, Marion le disait, c'est inspirer les plus jeunes, c'est-à-dire de pouvoir leur inculquer une rigueur, un travail. Et en ça, Nadal a toujours été un exemple irréprochable, que ce soit de travail, de fair play, d'investissement. Et c'est vrai que peut-être qu'au fur et à mesure des années, il verra là où il veut transmettre son expérience. Mais je le verrai plus effectivement auprès de jeunes, parce qu'il a une culture du travail qui est quand même extrêmement particulière, et que peut-être que c'est ça aujourd'hui que les plus jeunes auraient besoin de comprendre. Parce qu'on voit au plus haut niveau, mais on ne se rend pas compte du travail qui est fait dans les plus jeunes années. Et lui est un exemple parfait.
Voilà. Il est drôle ce débat, parce que je viens de réaliser qu'on en a un exemple sur le plateau. Donc un ancien grand coureur qui est devenu un grand entraîneur, je crois qu'il y a Marc Madio. Donc c'est forcément... Oui, mais est-ce que c'est évident? Moi, je dirais non.
Il faut avoir envie, surtout.
Il y a des contre-exemples. Oui. C'est pas parce que t'as été un grand que tu sais retranscrire.
C'est même parfois compliqué.
Oui.
Justement.
Je vais pas dire que ça a été un mauvais entraîneur, mais je sais que par exemple pour Jean-Pierre Papin, c'est peut-être un peu plus compliqué, même si, voilà, il essaye en tant qu'entraîneur, mais
Zidane,
Patrick Vieira, Zidane, c'est plutôt bien débrouillé.
Ouais, Zidane.
Donc,
Ouais. Donc, oui, plutôt
donc,
pas mal.
Donc voilà, donc non mais je pense que c'est pas évident. Voilà, je pense après Marc.
Il y a eu des doutes, notamment pour revenir sur le foot, sur Thierry Henry à un moment donné quand il est arrivé à Monaco.
Il a eu l'équipe de France aux Jeux Olympiques. Oui,
ça dépend aussi beaucoup des sports.
Il a eu du mal à.
On n'apporte pas la même chose si on est dans le cyclisme que dans le football ou que dans le tennis. C'est pas la même chose.
Ouais. Déjà, le tennis, rôle de l'entraîneur est différent.
Le rôle de l'entraîneur et l'apport qu'on va faire auprès de l'athlète ou du compétiteur est totalement différent suivant les sports.
C'est-à-dire que dans le tennis, par exemple.
Le tennis, il y a un joueur, un entraîneur.
Oui.
Moi, par exemple, j'ai une quarantaine de coureurs en tout. Et je ne suis pas avec eux 24 heures sur 24.
Oui.
En football, l'entraîneur a une bonne vingtaine de joueurs à disposition. Et il est aussi tous les jours.
Et il est sélectionneur.
Et il sélectionne. Moi aussi, je sélectionne, mais j'ai une palette de courses plus large. Donc, je vais donner un programme le plus cohérent possible à tout le monde. Moi, mon rôle, ça va plus être de stimuler et de.
Et puis, t'as un objectif, que ça soit un Français ou un étranger. Le but, c'est qu'il y ait un gars d'équipe qui gagne. Ouais.
Après, en tennis, je suis pas persuadé. Peut-être que Marion et Sarah.
L'approche n'est pas la même parce que. En tennis, soit tu gagnes, soit tu perds. En foot, soit tu gagnes, soit tu perds. En cyclisme, par exemple, si tu fais deuxième ou troisième du Tour de France,
c'est déjà exceptionnel.
On n'est pas dans les mêmes schémas.
Ouais. Non, mais les Lendl, les Becker, est-ce qu'ils ont vraiment apporté en tant que coach?
Il y a un autre phénomène qui est important dans tout ça, c'est l'implication et les temps de déplacement. Quand on s'appelle Nadal et qu'on a fait la carrière qu'il a faite et la longueur de sa carrière,
il n'a peut-être pas envie
de passer son temps dans les avions comme il l'a fait pendant plus de 10 ans.
C'est pour ça, je pense que ce sera son académie.
Donc franchement, c'est très variable.
Il faut avoir l'envie.
Je pense qu'il faut avoir le déclic aussi.
Moi, j'avais un déclic qui s'installait en moi quand je mettais mon dossard quand j'étais coureur.
C'est-à-dire
je me transformais mentalement. À l'entraînement, j'étais une personne et quand j'étais en course avec le dossard dans le dos, je devenais quelqu'un d'autre. Il y avait de l'agressivité, il y avait de la méchanceté, il y avait une transformation. Quand je suis entraîneur, c'est la même chose. J'ai le nœud à l'estomac. Tant que j'aurai le nœud à l'estomac, quand je suis dans l'accompagnement de mes coureurs, j'apporte ou je sers à quelque chose. Le jour où je n'aurai plus le nœud à l'estomac et que j'irai au départ des courses en ayant une espèce de vie dans moi, ça sera fini.
Moi,
j'aimerais prendre l'exemple de.
Vas-y, Marion.
De Juan Carlos Fierro, qui pour moi est très intéressant, qui a été numéro un mondial lui-même. Vainqueur tournoi du Grand Chelem et qui a pris Carlos Alcaraz très jeune. Il avait 12-13 ans quand il a commencé à l'entraîner pour l'amener à être numéro 1 mondial, vainqueur du Grand Chelem. Et je pense que Rafa, ça serait vraiment le prototype qu'il pourrait suivre. C'est-à-dire au départ, rester dans son académie, rester dans sa ville, être auprès des jeunes, plus voyager, comme le dit Marc, rester avec son fils, le voir grandir, etc. Et pourquoi pas s'il voit qu'un joueur a la capacité à justement comprendre ce que lui essaye de lui transmettre, à faire ce projet le sien et qu'il arrive à développer quelque chose d'extraordinaire, ensuite le suivre et l'accompagner jusqu'au plus haut niveau. Je pense que c'est vraiment un projet qui pourrait être totalement dans les cordes de Rafa et qui pourrait être énormément l'intéresser.
Et puis c'est aussi une histoire de rencontre.
Oui, tout à fait. Quand tu es sur un sport individuel, c'est une histoire de rencontre.
Quand tu t'appelles Nadal, il n'est pas dans le besoin. Il n'entraînera que s'il a un coup de cœur et s'il a une... connexion avec un joueur. S'il a pas ça, je le vois pas s'investir
avec Alcaraz. Non, pourquoi pas? Non, ça pourrait être une bonne association.
Mais il y a déjà Juan Carlos Ferrero.
Il a Ferrero.
Je le vois pas en train de repartir sur le circuit et de faire 30 semaines l'année. Je le vois vraiment pas en train de faire ça. Pour le coup.
Ouais. Non, mais de temps en temps, ils peuvent venir sur certains tournois, et puis il faut qu'il ait peut-être le coup de foot pour un joueur. Mais il faut que cette connexion se fasse.
Mais dans son académie,
ça peut se faire. Et après, j'ai pas de doute sur le fait qu'il réussisse, par exemple. Nadal, pour moi, c'est une évidence. Il a l'intelligence, il a tout ce qu'il faut, et il a un petit palmarès.
Il faut qu'il ait la connexion avec un joueur.
Après, ça peut être aussi des joueurs qui veulent progresser sur terre battue et qui vont venir chercher chez Nadal quelque chose en particulier sur cette surface-là. Ça peut aussi se faire. Et effectivement, ce sera peut-être des phases de suivi plus courtes.
Plus courtes.
Et c'est peut-être plus digérable quand tu finis ta carrière et que tu as besoin peut-être de, de rester à la maison ou en tout cas d'établir une vie stable que tu n'as pas eu pendant, pendant 25 ou 30 ans.
Je reprends, puisqu'on a des grands sportifs autour de la table.
Merci.
De rien, Ludo. Marc, toi, tu le savais quand tu étais coureur que tu allais être entraîneur ?
Oui.
Ah, d'accord.
Je l'ai su à la... les dernières années de compétition. Moi, j'ai eu la vocation, je dis souvent, j'ai eu la vocation d'être coureur comme on a la vocation d'être curé. Et quand je suis arrivé dans la dernière partie de ma carrière, quand je disais tout à l'heure, le dossard, c'est ce qui me faisait me transformer. La dernière année ou les dernières années, les deux dernières années, j'avais de moins en moins souvent la transformation qui se faisait dans ma tête. Et quand je suis devenu entraîneur quelque part, même si c'est pas tout à fait le même rôle en vélo, j'ai cette flamme et j'ai cette ce conditionnement. Je suis pas le même personnage quand je suis en course avec mes coureurs ou quand je suis avec eux en stage que quand je suis à la maison. Je suis pas la même personne. Je suis pas la même personne. Il y a un déclic qui s'installe le matin au petit déjeuner. Et tant que ce déclic est là, je vais être dans l'agressivité, je vais être dans l'enthousiasme, je vais être dans la motivation et dans l'accompagnement.
Et donc servir à quelque chose, effectivement.
Mais tant que j'ai envie d'aller, je vais vous donner juste un exemple. Quand on est en stage d'avant saison, on fait des longues sorties d'entraînement et on est dans la voiture derrière les coureurs. En fait, quand je suis dans la voiture avec l'entraîneur ou le directeur sportif, je ne sers à rien. Je ne sers à rien. La seule différence, c'est que mes coureurs voient que je suis là. Je ne vais à la limite que très peu parler, mais sur les 6 heures d'entraînement qu'ils vont faire, je vais être là pendant 6 heures dans la voiture avec eux. Le jour où je n'aurai plus envie de monter dans la voiture pour faire les 6 heures juste pour les accompagner et les suivre, il ne servira à rien, il sera l'heure de rentrer à la maison.
Marion, toi, tu as entraîné. Hein.
Parce que ce qui est important, ce n'est pas l'entraîneur, c'est ce que va ressentir le sportif.
Bien sûr.
Si le gars que j'accompagne est en osmose et en connexion avec moi et avec le staff de l'équipe, il va forcément progresser et s'améliorer et on va lui apporter quelque chose. S'il n'y a pas cette connexion, j'aurais beau avoir le plus grand palmarès qui soit ou avoir été le Guardiola du football ou autre, je ne servirais plus à rien.
Ouais. Et donc, je disais, effectivement, on a des entraîneurs autour de la table, hein, puisque Marion, toi, tu entraînes.
C'est ça, voilà, hein. J'entraîne toujours. Effectivement, j'ai entraîné sur le circuit professionnel. Il y a Elena Ostapenko qui a gagné Roland-Garros et Sorana Kirstea qui était remontée dans le top 30 quand je l'ai prise. Et puis là, j'entraîne deux jeunes qui ont 14 et 15 ans, un garçon et une fille. Et c'est vraiment un travail mais qui est totalement différent. Mais là où je suis d'accord avec Marc, c'est que quand je les accompagne sur des petits tournois juniors et que je me retrouve au fin fond d'un pays, et même pour un double qui joue, je suis quasiment plus stressée que quand j'ai joué ma finale de Wimbledon. C'est-à-dire que je vis le match comme si j'étais sur le terrain avec eux. Je vis chaque point. C'est une passion qui est totale et qui te prend aux tripes. Et si tu l'as plus, et si je l'avais plus, je serais pas sur le terrain tous les jours avec eux. C'est même au-delà d'un besoin financier ou de.
Tu n'entraînes plus Ostapenko,
en fait,
Marion.
Passion. Non, j'entraîne plus Ostapenko. Elle m'a demandé de la suivre pour l'Open d'Australie. Et là, comme je m'occupe de ces deux jeunes à plein temps, ça m'est pas possible.
Est-ce que c'est toi qui lui conseille ses tenues vestimentaires?
Non, c'est pas toi, ça me rassure. Mais par exemple, mais Ostapenko est un très bel exemple. Quand je la prends, elle est 90e mondiale, elle est quasiment en train de sortir du top 100. Et en deux semaines, elle avait gagné 9 matchs sur 10, elle était remontée top 30. Mais c'est un travail qui est complètement différent. Tu fais pas de la technique, simplement de la tactique et du mental.
Ouais,
alors qu'avec
mental.
Un junior qui a 14 ans, tu fais que de la technique et tu fais un tout petit peu tactique et beaucoup de mental. Parce que chez les jeunes, il y a beaucoup de mental à faire. Mais c'est un investissement qui est beaucoup plus important dans la formation d'un jeune que sur le circuit professionnel. Sur le circuit professionnel, la formation, elle est déjà complètement faite. Donc, en fait, ton travail avant un match, c'est d'expliquer la tactique que va utiliser l'autre et donc la tactique que ton joueur ou ta joueuse doit utiliser. Et après, c'est de le soutenir point par point pendant le match. Mais tout le travail a été fait pendant les 15 ans de formation qu'ils ont eu ou les 20 ans de formation pour devenir joueur professionnel.
Et Sarah, toi, l'entraînement?
Non.
Jamais, ça t'a jamais, non?
Non, je pense ne pas avoir les qualités
pour. Ah oui,
pour.
D'accord. Ouais, c'est... Pourquoi?
Bah, c'est pas une question. Bah, parce que je, la transmission.
Sarah,
je
vais te donner une anecdote.
Oui.
On a commenté un double ensemble avec Sarah à Roland-Garros. Ça a été deux doigts de rentrer sur le terrain et de montrer à la fille qui est en train de jouer les énormes erreurs qu'elle était en train de faire. Okay.
Je n'ai pas le recul nécessaire.
La fibre, voilà.
J'ai pas le recul nécessaire. Oui, mais ce sont des métiers. La pédagogie est totalement différente. Donc, ouais,
c'est intéressant. C'est bien de le reconnaître parce que c'est pas forcément évident. Il y en a qui se trompent.
Quand on accompagne ou qu'on entraîne, la première chose qu'on apprend, c'est la patience.
Ouais, oui. Bah alors, c'est peut-être pour ça que ça marche pas. Là.
Et même quand on est
c'est peut-être pour ça que ça peut pas marcher chez moi.
Oui, non, mais c'est sûr que c'est quelque chose d'important, la patience. Hein, Ludo, toi non, t'entraînes pas, toi.
Non, mais ça doit être passionnant. Je me mets à la place de Marc ou de Marion. Mais pourquoi Marion la Fed Cup, tout ça, non? Ça peut pas être pour toi?
À la Fed Cup, on m'a pas demandé. Mais j'irai avec un grand plaisir.
Bah voilà.
Mais ça, j'ai passé en fin d'année.
Et ça, c'est encore autre chose. Parce que la Fed Cup, c'est presque une sélection. Enfin, c'est encore un autre métier. Oui, parce que là, c'est encore ultra ponctuel.
Quand t'es complètement,
bien sûr. C'est encore une autre manière de coacher. Hein.
Ouais.